Ouais, toujours à l'écoute du RESF, hein, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 et www.rfpp.net. On vient d'écouter le Tramway Moine des Lilas, hein, c'était Adam l'Ancien, connu aussi sous le nom de Alex Adamopoulos. Et ben, je propose que maintenant on retourne tout de suite, on part tout de suite à nos rendez-fonds. Ce sont des entretiens qui ont été enregistrés hier en fin d'après-midi, bon, parce que c'était pas possible de le faire à cette heure-ci à la radio, par téléphone. Donc c'est par téléphone à nos rendez-fonds. Et on va d'abord écouter Nan, puis Nathalie, puis pour finir ce sera Jacques, hein, qui sont tous les trois de l'association Terre d'Errance de nos rendez-fonds. Donc tout de suite, Nan à nos rendez-fonds. En direct depuis une grande fonte avec Nan et Nathalie, hein, et vous allez nous parler des suites de ce qui s'est passé à une grande fonte il y a maintenant un peu plus de 2 semaines.
15 jours, ouais.
Ouais. Donc, Nan, je t'écoute, hein, tu vas commencer par nous parler peut-être des aspects juridiques, voire judiciaires de la chose, et puis Nathalie, tu vas nous parler de... du côté plus des exilés eux-mêmes, et puis après, mais ça ce sera sur une autre liaison téléphonique, hein, on appellera Jacques, qui a prêté son terrain, ou qui a mis son terrain à disposition pour que les exilés de retour puissent planter leur tente. Voilà, donc non, on commence à t'écouter pour nous parler des aspects juridiques ou judiciaires de cette expulsion qui était légale déjà, enfin cette expulsion, cette évacuation. Et destruction.
Oui, alors bonjour à tous. D'abord, je précise quand même que je ne suis pas moi-même juriste. Je suis juste militante bénévole. Et voilà, je vais essayer de vous expliquer du coup ce qui s'est passé pour le campement de Nouranfou. Faut savoir qu'il y avait la volonté du maire qui a été élu là en 2013-2014 a clairement été il a clairement affiché son hostilité, son inhospitalité pour le moins vis-à-vis des exilés qui étaient sur le territoire de la commune de Nouranfont depuis 2008 au moins.
Ouais.
Et donc voilà, lui, il a toujours eu un discours clair qu'il n'assumait pas pour autant. Hein, et il a attendu d'avoir le soutien de la préfecture et de la sous-préfecture de Béthune, donc préfecture d'Arras du Pas-de-Calais, et sous-préfecture de Béthune pour entamer des démarches. Il y a eu aussi de la pression qui a été faite sur les propriétaires du terrain privé, parce qu'il y avait deux terrains, un terrain municipal et un terrain avec plusieurs parcelles qui appartenaient aux membres d'une même famille, qui eux clairement n'étaient pas hospitaliers non plus, mais qui disaient voilà qu'ils voulaient juste pas avoir de problème, et puis c'est tout, c'est un terrain dont ils ne s'étaient jamais servi, ça servait ni de champ ni de jardin même.
Oui, je crois que c'était
juste une parcelle de même pas de pâture, hein. Et donc il y a eu de la pression sur ces habitants-là, c'était en 2015, le maire, c'est mai 2016, le maire et les propriétaires du coup entament des démarches pour l'expulsion du terrain. Donc mai 2016 du coup, ils entament des démarches auprès du tribunal de Béthune pour l'expulsion du terrain, c'est jugé du coup en première instance en octobre 2016, et le tribunal dit qu'il ne doit pas y avoir d'expulsion, refuse du coup l'expulsion parce que les terrains ne sont pas utilisés, mais aussi parce que là clairement c'est un endroit qui est dédié à l'aide, au soutien, et qu'il est clairement su aussi que s'il y avait expulsion, les gens se resteraient là mais dans des conditions pires. Le maire et les propriétaires font appel. L'appel est jugé du coup en avril 2017 où la cour d'appel de Douai dit exactement la même chose que le tribunal de grande instance, et à partir de là, au fait, depuis avril 2017, enfin depuis mai exactement, Nous, on s'attendait du coup quand même à un arrêté préfectoral ou municipal d'expulsion, parce que on a vu défiler des agents de la DDCS, des agents de la DDTM, donc DDCS c'est cohésion sociale, DDTM c'est direction départementale des territoires et de la mer, des agents de l'ARS aussi, l'agence régionale de santé, etc., des pompiers, qui tous ont fait des rapports pour dire à quel point le camp était insalubre, ce qu'on ne nie pas du tout, au fait, les exilés et nous-mêmes, les associations qui les soutenaient, qui les soutiennent encore, voilà, on est tout à fait au clair, ce camp était clairement insalubre, sauf que à cet endroit, enfin, il y avait eu des améliorations, il y avait des latrines, il y avait, enfin voilà, des soins qui étaient apportés, il y avait une caravane de soins, etc., un système de distribution d'apport d'eau en tout cas, etc.
Ouais.
Et nous, c'était un peu ça qu'on voulait défendre, c'était l'amélioration, aller vers l'hospitalité, quoi. En sachant très bien que la destruction aurait les effets qu'elle a, puisque la destruction a eu lieu. Au fait, le maire a pris du coup en cachette, avec tous ces rapports-là, un arrêté municipal, aidé, soutenu par la préfecture qui lui avait délégué ses pouvoirs de police, du coup, un arrêté municipal qui a été affiché le samedi 17, du coup, 17 septembre dernier, à 7h du matin, par le maire et les gendarmes. Donc, on a travaillé d'arrache-pied avec l'avocate des exilés et de l'association.
Pardonne-moi de t'interrompre, mais la date et l'heure. Donc le fait que ce soit un samedi à 7h du matin, ça a son importance.
Ah ben, complètement, au fait. Et elle est là toute l'hypocrisie, c'est-à-dire que cet arrêté municipal reste légal, c'est clair. Ouais. Sauf qu'en fait, ils ont tout fait pour contourner la justice. Vraiment tout fait, quoi. Et donc là, ils l'ont contourné le plus possible, du coup, en affichant un arrêté, du coup, un samedi à 7h du matin, en sachant qu'il serait quasi impossible de prévenir le tribunal administratif de déposer un recours avant le lundi, et qu'il soit lu avant le lundi 8h. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a travaillé d'arrache-pied avec Julie Bonnier, l'avocate des exilés et de l'association. Le recours a été déposé, mais le samedi, en fin d'après-midi, début de soirée. Mmh. La preuve du dépôt de recours a été faxée aux préfectures, au fait, hein, préfecture du Pas-de-Calais, préfecture de région, sous-préfecture de Béthune aussi. Ce qui n'a absolument pas empêché le sous-préfet de venir avec un grand sourire, avec le maire aussi, le lundi matin à 7h30. Pour commencer à détruire. Et quand le lundi à 7h, alors que les exilés n'étaient pas expulsés et que le campement n'était pas détruit, on lui a montré la preuve qu'il y avait un recours qui avait été déposé. Il a dit, ah bah non, c'est pas possible, enfin, j'avais cherché pourtant, avec un grand sourire, très sincèrement, mais enfin, j'ai cherché partout, je me disais bien que vous deviez faire un recours. Alors qu'il ne pouvait pas ne pas le savoir, étant donné que c'était sorti dans la presse. L'information du recours était sortie dans la presse le dimanche, quoi. Mmh. Et on va pas nous faire croire qu'il n'y a pas d'état entre le vendredi soir 16h et le lundi 8h, que l'état n'existe pas et qu'il n'était pas au courant de ce recours. Donc très clairement, alors que en fait le recours n'était pas suspensif, mais de fait, au fait, les expulsions n'ont pas lieu. Quand il y a un recours qui est déposé et quand le tribunal dit « attendez, je vais juger le recours ». Sauf que là, tout a été mis en place pour que le juge n'ait pas l'occasion de se prononcer. Et c'est d'ailleurs le juge lui-même qui l'a dit, puisque le recours a été quand même jugé mercredi dernier, soit 10 jours après l'expulsion. Et le juge lui-même était très très mécontent et a dit à plusieurs reprises que... a souligné l'hypocrisie, sans dire le mot, hein, on est quand même dans un tribunal administratif, etc., mais a souligné très clairement l'hypocrisie du maire et de la préfecture, quoi. Mmh. Ils se sont non seulement ils ont essayé de contourner la justice, ils ont réussi, mais ils l'ont piétiné complètement, en fait, hein, puisqu'ils savaient en vrai qu'il y avait un recours. Ils ont menti, mais d'une manière éhontée.
Oui. Et puis il y a quand même une chose aussi, enfin, si on revient un petit peu avant ce procès, puisque ça avait été donc l'expulsion de ce camp avait, enfin l'expulsion, l'évacuation du camp avait été jugée et il y avait eu l'appel avait
vous aviez donné et puis la cour
voilà, donc,
d'appel.
Comment est-ce que c'est possible légalement de le détruire puisque la justice avait dit qu'on ne détruit pas?
Eh ben en fait là du coup il s'agit de enfin c'est la justice qui avait dit non sauf que c'est pas la même démarche c'est-à-dire que là c'était elle avait dit non aux propriétaires.
Ouais.
Elle avait dit aux propriétaires qui sont la mairie et les propriétaires privés, les plusieurs la famille là,
ouais.
Qui avaient les plusieurs parcelles, elle leur avait dit non, vous ne pouvez pas récupérer vos propriétés parce que vous n'avez pas de projet dessus et puis parce que là pour l'instant elles sont utiles à des gens sans remettre en cause du tout les questions d'insalubrité etc. Mais du coup là la préfecture et le maire puisqu'il s'agit d'un arrêté municipal même si sans la préfecture je répète hein, ils n'auraient jamais rien fait la préfecture et le maire du coup se sont appuyés sur leur pouvoir de police pour dire attention il y a insalubrité c'est pas possible qu'on accepte que des gens vivent dans de telles conditions, c'est dangereux pour ces personnes. Il faut absolument détruire les gens, là-dessus, oh, combien de révélateurs si on se met à leur place, mais il faut absolument détruire ces abris qui sont insalubres et dangereux et il faut mettre les personnes à l'abri. Voilà, du coup, c'est vraiment deux démarches du coup, différentes. Il y avait une démarche judiciaire des propriétaires, et là, il s'agit d'une démarche administrative du sous-préfet et du maire, encore surtout, là, qui usent de leur pouvoir de police pour officiellement mettre les gens à l'abri.
Oui, et je crois que le sous-préfet, quand on a détruit les abris, il y a des rats qui sont sauvés, il a dit, là, regardez, il y a des rats, c'est insalubre.
Oui, oui, c'est ça.
C'est pour ça.
Le sous-préfet et le maire sont venus du coup du recours en fait au tribunal administratif. Et voilà, le seul argument du sous-préfet qui finalement, après s'être défendu en disant mais c'est un arrêté municipal, il fallait faxer au maire, le pauvre maire ne pouvait pas être au courant, etc. C'était quand même leur seul argument que le recours n'avait pas été l'information du recours n'avait pas été faxée en mairie. Finalement, il a dit oui au fait bon. C'est vrai, c'est moi qui suis derrière, c'est moi le sous-préfet, donc la préfecture, qui suis derrière cet arrêté. Donc ils ont reconnu que le premier argument ne tenait pas, n'était pas sérieux. Et en plus, il a dit, mais enfin, vous vous rendez compte, oui, il y a eu plein de rats qui se sont sauvés quand les pelleteuses se sont mis en marche, ce qui est tout à fait exact, je veux bien le croire, même si nous, militants bénévoles, on n'avait plus accès... au campement à ce moment-là, mais voilà, des rats, il y en a plein à Paris.
Oui, c'est ce que...
Il me semble que, allons-y, détruisons Paris, quoi. En plus, on est... C'est dans un lieu entouré de champs, donc oui, il y a des rats. C'est clair qu'il y a des rats.
Oui.
Il y avait des choses qui étaient mises en place contre les rats aussi, hein. Quels sont ces arguments-là ? Surtout quand on sait, enfin voilà, les arguments des rats et de la mise à l'abri des personnes, à quel point c'est sérieux quand on voit que là, actuellement, mais Nathalie en parlera beaucoup mieux que moi, que les gens sont à nouveau de retour dans les environs, sur un village à côté, dans des conditions de salubrité bien pire qu'elle n'était à nos rencontres. Quoi.
Voilà, et je crois que Nathalie est à côté de toi et elle va nous parler
tout de suite.
Oui. Peut-être encore des choses à dire sur le côté organisationnel et juridique de cette évacuation et destruction, parce qu'il ne reste plus rien maintenant.
C'est vraiment le sentiment de colère, d'injustice, parce qu'au fait, la justice n'a pas pu ne serait-ce que se prononcer, et puis d'hypocrisie, quoi. Vraiment, c'est vraiment ça qu'on ressent. Et là, justement, on était en train de tracter, de faire du porte-à-porte, d'aller voir le voisinage, etc., avec Nathalie, et c'est ce qui est dit aussi, c'est ce que vivent les habitants du coin. Ils disent, mais de toutes les façons, on savait que les gens n'allaient pas partir, etc., et qu'ils reviendraient. Et voilà, ils parlent, eux, aussi d'hypocrisie, et pour le coup, ça nous rassure un peu, parce qu'ils sont pas dupes des discours faciles que peuvent tenir les autorités, quoi.
Donc, si tu m'envoies le tract, on le mettra sur la page de l'émission où cette émission sera podcastable. Hein, c'est sur http://resf www.radio.info/radio et on pourra trouver ce tract quand
j'aurai mis l'émission
en ligne. Voilà.
Pas de problème, on t'en envoie avec plaisir. Je te passe Nathalie.
D'accord.
Au revoir.
Au revoir et puis à très bientôt.
Au revoir.
Allô, Nathalie ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Nathalie. Donc, tu vas nous parler. Donc, toi, tu es aussi depuis très longtemps à Noranda-Fonte. Et je crois que tu as suivi les exilés qui ont été évacués dans leur pérégrination.
Oui, en fait, on les a tous suivis. On était toujours en contact avec eux.
Ouais.
Du coup, ils ont été séparés en deux groupes, en gros. Il y en a qui se sont retrouvés à Belleval. C'est un peu... Je ne sais pas trop si vous connaissez. Mais bon, il y en a qui sont partis à Belleval, c'était dans une ancienne, enfin dans une abbaye en fait.
Ouais.
Et il y a un autre groupe qui s'est retrouvé à l'hôtel sur Arras.
Ouais.
Là, tu parles des
femmes. Je te coupe. Belleval, c'est où?
C'est une abbaye.
Ouais.
Et donc, à l'intérieur, ils ont fait un CAES.
D'accord. Et c'est dans le Pas-de-Calais.
Oui, c'est dans le Pas-de-Calais. Tout était dans le Pas-de-Calais. C'est pour ça, pour nous, c'était facile d'aller les voir, de rester en contact avec eux. Ils n'ont pas été envoyés dans le sud de la France, je me souviens plus. Enfin, pas loin de nous, en fait.
À Toulouse ou à Perpignan?
Non, ils étaient pas trop loin. Du coup, on a été les voir à chaque fois.
Ouais.
Et donc, en gros, les filles, elles étaient dans un hôtel à Arras. Elles n'ont pas eu de visite des représentants de l'État.
Ouais.
Il n'y a que un groupe de bénévoles qui sont venus les voir. Il y avait un peu le SIA ou d'Arras qui est venu aussi.
Ouais.
Et la plupart des hommes soudanais se sont retrouvés donc, à Belleval. Donc, c'était un CAES.
Ouais.
Alors, c'est un centre d'accueil et d'évaluation des situations. C'est un peu comme un centre de tri, en fait.
Ouais.
Et eux, ils avaient en gros une semaine pour décider
s'ils
demandaient l'asile ou s'ils ne demandaient pas l'asile. Et donc, au bout d'une semaine, on a commencé à leur dire « vous devez partir ». Alors, ça n'a été pas tous en même temps, hein, mais 3 par 3, 4 par 3, voilà. Et au fur et à mesure, les hommes, en tout cas, sont revenus les premiers. Et ils nous ont contactés ou ils nous ont demandé de l'aide encore parce qu'ils étaient revenus dans le coin. Et en disant « est-ce que vous continuez à nous aider ou non ?» Donc, on a dit « bah bien, enfin, ». Donc on a recommencé, ils ont trouvé un terrain, enfin donc ce terrain, le propriétaire était d'accord pour, enfin il a dit ok, ils sont là, ils peuvent rester là, je vais pas demander à ce qu'ils soient évacués.
Ouais.
Et on a commencé à, ils ont ramené des tentes, on a ramené des couvertures, et puis on essaie de remettre en route tout ce qui est nourriture par exemple, donc leur ramener à manger. Avec les gens qui leur ramenaient déjà avant, donc on met tout ça un peu en route, on continue de faire les douches. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau. On avait réglé un peu la question sur nos renfontes, mais là, le problème de l'eau revient en force. Il n'y a toujours pas d'eau, il n'y a pas de douche tous les jours, il n'y a pas d'électricité. Voilà. Les conditions, elles sont bien pires. Hier, il a plu, toutes les tentes, elles prenaient l'eau. Enfin, ce n'est pas des tentes qui sont faites pour... Enfin, déjà, c'était dans des vieilles tentes, et puis elles ne sont pas faites pour durer. Enfin, elles vont pas tenir très longtemps. Quoi.
Ouais, donc...
Du coup, nous, on se retrouve comme avant, à tout recommencer, à dire, mon Dieu, mais comment on va faire quand il pleut? On se dit, mon Dieu, ils sont trempés. Quand il va commencer à faire froid, on va dire, oh là là. Voilà, on a tout à refaire, en fait.
Voilà, donc on revient finalement dans la situation dans laquelle on était il y a 10, 15 ans.
Ouais, carrément, ouais. Même moins que ça, parce que finalement, le camp de renfonte, il commençait, enfin, il était toujours insalubre, hein, mais le problème de l'eau, il a été réglé, je sais pas, il y a environ un an, peut-être, à peu près. On avait les groupes électrogènes, c'est pareil, ça n'a pas toujours été comme ça. Enfin, je veux dire, ça s'est construit petit à petit, le fait que chacun avait un abri quand même, pour s'abriter de la pluie, du vent, etc. Ça fait pas non plus 2 ans que c'est comme ça, hein, ça nous a pris du temps à trouver les chauffages pour tout le monde, à ce que chacun ait vraiment, soit plus sous tente, ça prend vraiment du temps. Ça demande beaucoup d'énergie. Et là, on est assez désespérés, c'est-à-dire qu'il faut recommencer. Puis eux aussi, on leur a détruit quand même, c'est la seule chose qu'ils avaient. Enfin, ils avaient leur lit, voilà. Donc tout est détruit.
Donc...
Et là, il y a encore beaucoup de monde. Enfin, toutes les femmes, par exemple, elles étaient à Arras jusqu'à ce matin.
Ouais.
Là, on leur a demandé de partir, donc de partir à Belleval, dans ce fameux CAES.
Ouais.
Elles sont... Alors, la plupart... La moitié environ a accepté de partir. Je vais aller les voir tout à l'heure. Mais les autres sont reparties à Calais.
Mmh.
On pleure, on larme complètement. Elles nous disent qu'elles sont perdues, qu'elles savent plus où aller, qu'elles savent plus quoi faire. Enfin, faut savoir qu'en fait, c'est des gens. Les gens, ils demandent souvent, mais pourquoi ils ne demandent pas l'asile en France? En fait, c'est beaucoup de Soudanais et d'Éthiopiens. Et alors, je ne sais pas pourquoi. Mais en France, pour les Soudanais et pour les Éthiopiens, c'est très compliqué d'obtenir l'asile. Alors qu'en Angleterre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Elles sont quasiment sûres de l'avoir.
Mmh.
Et du coup, elles peuvent pas demander l'asile en France. Elles savent qu'il y aura des rejets. Il y a une de leurs copines, par exemple, pour les femmes, qui a demandé l'asile en France avant la destruction à Noranda-Fonte. Elle l'a demandé il y a peut-être 6 mois ou 7 mois.
Mmh.
Et là, il y a quelques jours, elle a eu son refus. Donc elles le savent, elles savent que tous leurs copains éthiopiens, éthiopiennes, etc., ils ont des refus du coup. Elles disent, bah non, nous, on va pas demander l'asile ici, on sait qu'on n'aura pas gain de cause, quoi.
Il faut savoir
Du
qu'un
coup, elles doivent
certain
partir en Angleterre.
et le
Et
président du
oui.
Soudan avec qui on a discuté, on a négocié le protocole de Khartoum, M. Al-Bashir, est le seul président en exercice condamné pour crime contre, enfin, recherché par le tribunal pénal international, et donc par Interpol, et condamné pour crime contre l'humanité et génocide.
Ouais, mais ici, apparemment, on n'en tient pas compte. En fait, en France, on a déjà renvoyé des Soudanais au Soudan. Là, il y a des articles qui commencent à sortir dans la presse là-dessus parce qu'en Belgique, en même temps, du coup, en même temps que la destruction du camp, il y avait des gens, donc des Soudanais, qui essayaient en Belgique déjà depuis un an. Mais là, ce mois-ci, ça s'est beaucoup durci pour les Soudanais en Belgique. En fait, il y a eu des renvois au Soudan avec une histoire de. Enfin. Je sais pas, des espions, c'est pas des espions, enfin, je sais pas, des gens du gouvernement soudanais, en fait, qui sont arrivés en Belgique pour identifier les Soudanais et les renvoyer plus facilement au Soudan. Donc, tous les Soudanais qui allaient essayer la semaine en Belgique étaient revenus au camp en panique, en disant, mon Dieu, mais on veut pas être enfermés et renvoyés au Soudan. Et là, du coup, alors, on leur a détruit leur seul abri pour s'abriter la pluie, du vent, etc. Et là, en plus, ils ont le stress de dire, bah, on peut même pas repartir en Belgique parce qu'on risque vraiment de se faire renvoyer au Soudan. Ils ont plein de copains qui sont enfermés là en Belgique. Voilà, donc ils sont dans un stress pas possible. Donc les filles désespérées complètement, sachant pas quoi faire. Les garçons pareil, parce qu'ils disent, ben, en fait, on n'a plus d'endroit où aller. Enfin, ils peuvent plus aller ici en Belgique ou quasiment pas. Et puis ici, ben, il n'y a plus rien.
Ouais,
Voilà.
donc c'est une situation qui est absolument catastrophique.
Ouais, franchement, complètement. Et en fait, on se disait aussi, nous, au niveau de l'assaut, enfin, il n'y a eu aucun suivi psychologique en fait. Quand on a détruit tout ce qu'ils avaient, enfin, nous, on en a fait des cauchemars pendant au moins une semaine. On a encore du mal à dormir correctement la nuit. Alors, eux, j'imagine même pas à quel point ils doivent se sentir mal. Et y a rien eu à ce niveau-là. Enfin, c'est comme si ça comptait pas. Et les femmes, quand on va les voir, elles sont en larmes, elles ont vraiment, vraiment mal. Et on dit, personne ne tient compte de ça aussi, de, enfin, voilà, de cet impact psychologique, enfin, qui est assez terrible, en fait.
Voilà, parce que
Voilà.
quand on parle des morts en Méditerranée, quand on parle de la vallée de la Roya, tout ça sont des étapes, et Noronfontaine et Calais est une autre étape, après avoir
Ouais,
franchi
ben
ses premières étapes.
ouais, et puis pour tous, hein, tous ceux qui sont à la chapelle, là, dans les rues, tous ceux qui sont à Bruxelles aussi, à la rue, qui sont harcelés, enfin, par la police aussi maintenant. Enfin, tout ça, en fait, ça les tue aussi, mais à petit feu, en fait. Enfin, on a des femmes qui ont des enfants, qui sont encore en Éthiopie, qui attendent que leur mère, elle passe enfin. Ça fait des fois 2 ans qu'elles sont là, des fois plus. Elles le disent, enfin, moi, il y en a une qui m'a dit, hein, moi, j'ai bientôt me suicider, hein, là, j'en peux plus, là, je suis à bout, enfin. Je sais pas, mais nous, on sait pas quoi leur dire, on sait pas quoi faire pour elles, franchement, on est perdu aussi, on sait pas du tout quoi faire.
Voilà, et donc j'avais envie de dire, et maintenant, mais maintenant c'est bah, c'est de nouveau le camp, un petit camp dans un champ, quoi.
Ouais, puis là, bah, on se remet au travail, enfin, là, on était en réunion, on se dit, bon, bah, alors, comment on fait pour cet hiver, quelle tente on va pouvoir mettre, quelle après on va pouvoir leur proposer, comment on se réorganise, comment on fait pour les déchets, parce que là, il n'y a plus de ramassage des déchets, comment on fait pour l'eau, donc chacun son jour pour amener les jerrycans d'eau, enfin, voilà, on est reparti dans l'urgence. Alors, c'est pas super bien d'être dans l'urgence, parce que quand on est tout le temps dans l'urgence, on n'arrive pas à prendre beaucoup de recul, enfin, je sais pas comment expliquer, mais du coup, là, on est reparti sur des besoins primaires, et en même temps, on doit se battre, enfin, plus haut, quoi, avec plutôt les politiques pour leur dire, mais regardez ce que vous faites. Enfin, voilà, mais là, on est heureux à nouveau dans l'urgence de se dire, mon Dieu, ben, comment on fait pour qu'ils puissent manger, comment ils font pour boire, comment on fait pour la pluie, comment on fait pour le froid. Alors qu'on a plein d'autres choses à faire, en fait, on a plein de choses à. On doit militer pour obtenir, je sais pas, l'ouverture des frontières, ou je sais rien.
D'ailleurs, ce qui serait éventuellement utile, ou d'envoyer des choses, et quoi depuis Paris, où vous pouvez trouver ce qu'il faut sur place.
Ben, en fait, il faudrait plus, enfin, je sais pas, ouais, des choses, on en a, en fait, on n'est pas en manque de choses, les gens, ils en voient. Là, on manque de gens qui disent au gouvernement, ouvrez ces frontières, enfin, arrêtez ça, vous les tuez à petit feu, c'est n'importe quoi, enfin, là, les gens sur le camp, c'est ce qu'ils disent aussi, les gens, ils sont gentils, ils nous ramènent à manger, ils nous ramènent des couvertures, ils nous ramènent de l'eau, c'est cool, mais c'est pas ça qu'on veut, enfin, en fait, ils disent, aidez-nous à passer cette frontière, enfin, c'est surtout ça qu'on a besoin, je crois. Quand il y a des manifs à Calais, on a besoin de monde pour dire, regardez, on est nombreux, enfin, toutes les manifestations qu'on fait à Calais pour dire ouvrez les frontières, on est de moins en moins. Il y a de plus en plus de violences policières, ça devient n'importe quoi. Enfin, ça a toujours été, mais là, c'est pire en pire. Et du coup, ce qu'on a besoin, c'est plus de mobilisation des citoyens qui disent, ben non, en fait, on refuse. Là, à Bruxelles, il y a eu pas mal de mobilisations citoyennes. Les gens, ils ont ouvert leur maison pour que les Soudanais, par exemple, ne fassent pas arrêter par la police. Il y a eu plein, plein de gens qui ont été mis à l'abri, en fait, pour les protéger. Enfin, voilà, les gens, ils sont... Bon, je dis pas qu'en France, il n'y a pas ça aussi. Hein. Il y a ça aussi, mais je crois qu'à un moment donné, il faut... On n'a pas besoin de nourriture, en fait. On a besoin que les gens, ils... Je sais pas, ils envoient des messages forts au gouvernement disant non, on n'est pas d'accord avec cette politique qui tue des gens tout le temps, quoi. Et alors même, c'est pas en Méditerranée, mais ici, ils les tuent aussi. Hein. Là, les gens, nous, qu'on a sur le campement, là, ben, franchement, ils sont dans un état. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, je crois qu'on a surtout besoin que les gens, ils se mobilisent plus, enfin, qu'ils disent non, on refuse ça. Enfin, on a besoin de voitures, par exemple, qui se passe en Angleterre, pourquoi pas? Enfin, je sais pas.
La mobilisation pour ouvrir les frontières, c'est quelque chose qui est très important et j'espère que ça va repartir.
Ouais.
C'est même le plus important. Et
Ouais,
puis,
en fait, c'est le plus important, ouais.
on va retrouver donc, c'est Jacques qui a mis son
Ouais.
terrain à disposition. Eh bien,
Ouais.
merci beaucoup et puis à très très bientôt.
Ouais, d'accord, merci beaucoup.
On est toujours à l'écoute du RESF sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, pour nous écouter en streaming partout dans le monde. On vient d'écouter Nan et Nathalie, hein, militantes de Terre d'Errance Noranda-Fonte, hein, donc de Noranda-Fonte, qui nous parlaient des suites de la destruction du camp. Et on va tout de suite retrouver Jacques. Bonjour Jacques, tu es à
Bonjour
Noranda,
Yves.
oui, tu es à Noranda-Fonte, enfin ou à côté de Noranda-Fonte, à Aire-sur-la-Lys, je crois.
C'est bien ça, voilà. C'est très près de, c'est à 5 km environ de Noranda-Fonte. Alors tu vois, je dispose d'un terrain, hein, déjà depuis une vingtaine d'années. Hein, c'est un terrain qui était familial dans lequel mon épouse et moi, nous avons fait planter des arbres. Hein.
Ouais.
Donc ce terrain, les arbres grandissent. Balade pour nous, on a une très belle vue sur la vallée de la Lys. Et puis évidemment, dès l'instant où déjà il y a ça, 2 ans peut-être, il y avait déjà un risque que le temps, que le camp de migrants soit démantelé, j'avais signalé aux gens de Terre d'Errance que je disposais d'un terrain et que si le camp avait été démantelé, j'aurais pu prêter ce terrain. Alors par 2 fois, le camp n'a pas été démantelé, donc ça n'a pas été nécessaire. Et malheureusement, évidemment, il y a ça quelques semaines, le camp a été démantelé, hein, et donc les migrants sont partis, forcés évidemment par la gendarmerie et par le sous-préfet, pour partir dans des centres de CAO, donc d'accueil et d'orientation. Hein. Alors a priori, c'est un principe qui paraît correct. Et il leur demande essentiellement de éventuellement de demander l'asile en France. Alors s'ils demandent l'asile en France, ils peuvent rester dans ces centres CAO. Et s'ils ne le demandent pas, ce qui est le cas de la majorité des migrants qui veulent absolument partir en Angleterre et qui ne veulent pas se stabiliser en France, évidemment, ils ont quitté ces centres CAO. Évidemment, ils étaient dans la nature. Ils connaissaient évidemment le coin de Noranda-Fonte, surtout les gens de Terre d'Errance qui les ont aidés déjà depuis de nombreuses années. Et donc, on leur a proposé ce terrain que j'avais, si tu veux. Pour moi, c'est une notion d'éthique, hein, de ne pas les laisser comme ça vagabonder, hein, dans les fossés et dans les petites rues des villages aux alentours. Hein. Donc, toujours est-il qu'ils sont arrivés il y a de ça vendredi dernier, hein, ce vendredi dernier, voilà. Il y en a peut-être 7 qui sont arrivés d'abord en premier. Ce sont des Soudanais. Évidemment, quelques heures après qu'ils soient implantés, j'ai eu un coup de téléphone de la gendarmerie locale, enfin, d'une ville aux alentours, hein, me demandant si j'étais au courant qu'il y avait des migrants sur mon camp. Et j'aurais évidemment dit que je le savais que des migrants allaient arriver et que je n'allais pas les virer, évidemment, cette fois-ci. Hein, d'accord? Donc, je n'ai pas eu de problème avec cette gendarmerie, qui du reste a été correcte avec moi. J'aurais signalé que c'était un bien privé et donc que je pouvais accueillir que je voulais sur ce camp. Alors, les bénévoles, si tu veux, ont amené évidemment des tentes qui sont des tentes petites, hein, un petit peu les tentes de camping habituelles, hein, mais pas des grosses tentes. Évidemment, ils aident, ils amènent de l'eau, ils amènent un puits à gaz et quelques casseroles pour faire la cuisine. Et surtout, il y a des permanents, hein, pas des permanents, mais des bénévoles de Terre d'Errance qui amènent de la nourriture, hein, qu'ils obtiennent dans les magasins, enfin dans les grandes surfaces qui distribuent les invendus et les aliments dont la date de validité est un peu limite. Hein.
Ouais.
Alors ces migrants étaient très très contents d'arriver là parce que évidemment ils ont dit qu'ils dormaient mieux là dès la première nuit. Ils ont dit qu'ils ont mieux dormi dans ce camp que dans les centres d'orientation. Hein. Bon, évidemment le temps évidemment était un peu clément et il n'y avait pas de pluie. Hein, donc voilà. Donc c'est un endroit qui est calme. Évidemment. Les gens de Terre d'Errance n'ont évidemment rien fait pour que les migrants reviennent. Hein. S'ils avaient voulu aller dans les centres d'orientation et d'accueil pour rester en France, pour avoir l'asile en France, ben, évidemment, ça n'aurait posé aucun problème. Le problème, c'est que tous ces gens-là, hein, tous ces migrants-là, veulent absolument aller en Angleterre. Ils parlent l'anglais et surtout, ils ont de la famille en Angleterre. Donc, ils veulent surtout jamais rester en France. Alors évidemment, c'est un petit camp de transit. Actuellement, ils sont à une... J'ai dit ce matin, ils étaient à 22 ou 24 personnes.
Mmh.
Il y en a quelques-uns qui vont encore arriver a priori. On va évidemment essayer de limiter le nombre parce que il faut évidemment que les bénévoles arrivent à suivre un petit peu le rythme, mmh. hein, pour leur assurer un minimum de confort. Je les ai vus ce matin. Ils sont toujours très sympas, contact très facile. Ils me font un thé si j'en veux. Ils sont quand même pas malheureux, hein, pas malheureux. Et évidemment, leur seul but, c'est de pouvoir gagner l'Angleterre en étant près des aires d'autoroute dans lesquelles les camions pourraient s'arrêter. Ils pourraient s'arrêter parce que les aires d'autoroute ont été fermées de façon à ce que les camions ne s'arrêtent pas et qu'ils ne puissent pas monter. Mais on peut espérer qu'un jour, ils vont réouvrir ces aires d'autoroute. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de femmes sur le camp.
Ouais.
Hein. Il faut un peu qu'on s'organise pour peut-être, s'il y en a qui veulent venir, retrouver des tentes un petit peu peut-être plus confortables et un peu plus isolées. Il y a évidemment des petits problèmes de toilettes également, donc on va creuser hein, dans le sol des endroits pour qu'ils puissent aller aux toilettes. Pour l'instant, on leur amène de l'eau très régulièrement. Ils ont une bonne hygiène, hein, ils se lavent avec l'eau qu'on leur fournit. Une fois par semaine, on les transporte dans des douches qui ont été prêtées par une commune avoisinante, hein, la commune d'Isberg. Hein, alors évidemment, l'hiver approchant, évidemment, nous allons demander évidemment aux maires des communes aux alentours et certainement également au sous-préfet, qui puisse réfléchir à des solutions qui permettent de les mettre à l'abri hein, et de ne pas subir hein, des intempéries ou de la froidure excessive. Alors là, ça sera certainement la phase 2. Hein.
Mm-hmm.
Je pense qu'il n'y aura pas de problème avec la gendarmerie, vu que c'est un terrain privé. Il y aurait ces gendarmes, quand ils sont venus, ils m'ont demandé l'autorisation de rentrer sur le terrain. Ils ne pénètrent pas sur un terrain qui appartient à un privé. Hein. Ils ont visité, hein, ils ont regardé un petit peu les tentes qui étaient là, mais rien d'autre de particulier. Voilà, donc nous espérons surtout, pour l'instant, c'est la mise en place. La mise en place est favorable. Il y a très peu de voisins parce que c'est un terrain agricole, c'est un petit bois qui est à côté d'un autre bois. Donc il y a simplement des chasseurs à côté, mais on les a prévenus d'être très prudents. Il y a très peu de maisons aux alentours et les gens de Terre d'Errance sont allés voir les voisins, ont distribué des petits tracts pour leur expliquer un petit peu que c'est des gens pacifiques et qu'on n'a pas grand-chose à craindre avec eux.
Oui, hein, ça c'est...
Voilà, je pense que j'ai pu te donner assez bien de renseignements. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire.
Hein? Ta position là-dessus, elle est très ferme.
Voilà, oui, ma position est forcément très ferme, bien entendu, parce que c'est un problème d'éthique personnelle d'abord, hein, hein, et puis évidemment, ils vont rien abîmer, hein, ils vont pas abîmer mes arbres qui ont déjà 20-30 ans, et je trouve que c'est un accueil nécessaire là pour moi, mais qui n'est certainement pas suffisant, parce qu'on ne peut pas pouvoir les laisser là passer tout l'hiver, mais on ne peut pas non plus les laisser croupir dans les fossés sans aide surtout de l'association Terre d'Errance, qui fait tout pour qu'il ne manque de rien, hein, pour qu'il manque qu'il puisse avoir un couvert et un petit gîte. Alors pour l'instant, voilà, il y a des sacs de couchage, enfin pour l'instant, ils ne prennent de rien. Mais le jour où il va geler, il faudra quand même faire un petit problème. Il faudra certainement qu'on ait une aide de l'État, enfin des communes peut-être, hein, ouais. Et surtout une aide de l'État, parce que c'est à l'État à prendre en charge ce genre d'hébergement. De toute façon, notre président de la République a signalé que c'était un devoir, hein, d'accueillir les migrants. Alors, il semblerait qu'il n'ait pas donné le même message à son ministre de l'Intérieur, qui, évidemment, donne peut-être pas le même message également au préfet ou sous-préfet, mais nous espérons que maintenant, les préfets, sous-préfets et le ministre de l'Intérieur va pouvoir accueillir comme ils le doivent, hein, par tous les traités, les différents migrants. Il faut dire aussi que Monsieur Xavier Bertrand, hein, qui dirige la région nord de France, hein, avait promis qu'il allait essayer de régler ce problème, surtout de faire en sorte que la frontière ne se trouve plus, la frontière avec l'Angleterre ne se trouve plus à Calais, hein, après les accords du Touquet, mais qu'avec le Brexit qui est en cours, mais qui ferait tout pour qu'il puisse traverser la mer, et après, ben, les Anglais se débrouilleront un petit peu, hein, mais là, on a un peu de mal à comprendre qu'on bâtisse comme ça des frontières avec à Calais entre autres, avec des barbelés, avec un tas de trucs. Quand Monsieur Trump veut faire une frontière avec le Mexique, tout le monde crie énormément, et puis ici en France, visiblement, on se pose un petit peu moins de questions pour les barbelés qui empêchent les migrants de passer. À Calais en particulier. Voilà. C'est affreux quand on voit la hauteur de tous ces barbelés, de toutes ces grilles et tout ça. C'est réellement un truc épouvantable. Voilà. Yves, bonne soirée à toi.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jacques. Et puis, à très bientôt, j'espère, à Noranda-Font ou à Paris.
Très bien. Entendu. Merci.
Au revoir. Vous êtes toujours à l'écoute du réseau Éducation sans frontières, RESF, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp.net pour nous écouter en streaming partout dans le monde, pourvu d'être connecté, enfin d'avoir une connexion suffisamment rapide pour se faire. Cette émission sera rediffusée mardi matin de 7 à 8 et très bientôt téléchargeable sur le site resf.info à la rubrique radio, hein, c'est resf.info/radio. Et donc elle sera bien sûr téléchargeable. Là, il faudra peut-être attendre samedi. Donc, on vient d'écouter Nathalie et Jacques qui parlaient donc des suites de Noranda-Font. Hein. On pourra réécouter l'émission qu'on a faite il y a 2 semaines avec Nan qui parlait déjà de Noranda-Font. Et puis, on en a souvent parlé. Et d'ailleurs, en 2015, hein, c'était je crois en septembre 2015, c'était en octobre 2015, hein, donc il y a tout juste 3 ans, le camp de Noranda-Font avait déjà de nouveau des problèmes et le maire et le préfet donc voulaient, enfin essayaient de le faire détruire et voulaient condamner l'association Terre d'Errance pour avoir reconstruit un des chalets qui avait brûlé en ne respectant pas le code de l'urbanisme, hein, puisque le terrain n'était pas, enfin il n'y avait pas de permis de construire pour ce chalet. Et il y avait eu un énorme rassemblement de solidarité et pour reconstruire le chalet, hein, il y avait au moins entre 600 et 700 personnes qui étaient dans le camp de Noranda-Font et sur le terrain à côté. Et donc, à l'échelle de Paris, hein, ça représente quand même près de 3 millions, enfin, ce serait l'équivalent de 3 millions de personnes, hein, à l'échelle de Paris. Et il y avait HK et les Saltimbanques qui avaient donné un concert superbe. Donc, tout le public était les pieds dans la boue. Eux, ils étaient sur le camion d'Emmaüs Dunkerque qui avait été transformé en camion scène pour l'occasion. Donc, je propose qu'on écoute tout de suite HK et les Saltimbanques. Ça a été enregistré donc depuis à Noranda-Font sur le camp qui a maintenant été détruit.
Voilà, merci, bravo infiniment à chacune, chacun d'entre vous. chacune, chacun d'entre nous, d'avoir répondu à l'appel, d'avoir répondu présent. Les maîtres mots, aujourd'hui et dans les jours qui suivent, et pour longtemps, je l'espère, solidarité, fraternité, humanité. Voilà, on espère sincèrement et on souhaite la meilleure des choses pour toutes nos sœurs et frères présents ici, pour les gens de l'association aussi, pour chacune et chacun d'entre nous en fait, en vérité. Voilà, la seule chose qu'on voudrait dire, deux choses. La première, c'est bravo, bravo évidemment à tous ces gens qui dans l'ombre continuent encore et toujours à faire en sorte que le monde se porte un peu moins mal chaque jour. Et du fond du cœur, nos rencontres, merci, merci, choukran, merci. Chimanique, j'ai croisé hier soir dans le café d'un ami accoudé au comptoir. Il est venu me parler pour me faire la morale. J'avais pas dit s'il vous plaît ni merci au barman. Il parle mais n'écrit pas la langue de Molière. Il n'a pas son certificat d'études secondaires, mais qu'il aime philosopher sur la nature humaine. Les mauvaises langues vous diraient qu'il a ça dans les gènes. Ça irait mieux la France si tout le monde y dit merci. Merci,
merci.
Si tout le monde y dit merci, ça irait mieux la France si tout le monde y dit merci. Merci. La France, il la connaît, c'est sa deuxième maison. Travailleurs immigrés, première génération. Il y a 60 ans, quittant son petit village, à peine adolescent, il a fait le grand voyage. Un recruteur des mines est venu le chercher. Tampon vert sur la poitrine, tu seras ouvrier. Sa sueur, elle a coulé toute sa vie dans ce pays. Il aurait peut-être juste aimé que quelqu'un lui dise merci. Si tout le monde y dit merci, ça irait mieux la France. Si tout le monde y dit merci, merci. Si tout le monde y dit merci, ça irait mieux la France. Si tout le monde y dit merci, merci. Ils sont où les you-you? Après 40 années, son vœu fut exaucé. La mine sombre est fermée, son patron l'a remercié. Depuis, il exerce le rôle très officieux d'agent de politesse dans ce café revenant lieu. Tel un maître d'école, il s'affaire à m'éduquer. La main posée sur mon épaule, il part sans s'arrêter. Si j'ai bien tout compris, c'est pas trop compliqué. Il faut toujours dire merci, bonjour, au revoir s'il vous plaît. Si tout le monde y dit merci, ça irait mieux la France. Si tout le monde y dit merci, merci. Si tout le monde y dit merci, ça irait mieux la France. Si tout le monde y dit merci, merci.
Voilà, c'était donc HK et les Saltimbanques, enregistrés live à Noranda-Fonte lors d'un rassemblement de soutien au camp en octobre 2015, et où on avait reconstruit un des cabanons qui avait été détruit. Voilà, donc j'ai oublié de dire qu'on est toujours à l'écoute de l'émission RESF sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 à Paris et proche banlieue. Et tout de suite,